RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Le Super Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Jean-Christophe Drouet.
Tous, c'est l'After Foot, la seule émission au monde que vous pouvez suivre à la télé sur BFM Sport, à la radio évidemment sur RMC ou en allant sur notre site internet rmcsport.fr. Nous allons débriefer pendant un petit peu moins d'une heure ce troisième match de préparation des Bleus à la Coupe du Monde. France, États-Unis, un partout, match nul donc pour cette équipe de France. L'After, comme d'habitude, jusqu'à minuit. Et ce soir, pour vous régaler, le taulier de l'After, qui depuis quelques jours supporte l'équipe du Mexique. En bon italien, il ne peut pas être insensible aux soirées Bunga Bunga. Daniel Riolo, salut Daniel.
Salut les amis, je ne sais pas pourquoi je supporte le Mexique moi.
Bah pour ça, pour ce que je viens de dire.
Ah oui,
tu sais, la soirée Bunga Bunga du Mexique.
Bunga Bunga.
J'avais pas fait le lien. Mais
Berlusconi,
comment plus,
Riolo.
Ouais, c'est non, ça. Comment ouais. Plus, c'est vrai, j'ai toujours bien aimé cette sélection. Je crois, c'est pour ça que j'ai pas compris ton lien et tout. Très bien, très bien. Mais là, c'est plus clair pour moi.
En plus, ils ont perdu. On va en parler cet après-midi face aux Danois 2-0.
Ça, c'est normal. Je veux dire, ils avaient laissé des forces dans la préparation. Ça, c'est normal.
Dire, non, en fait.
Quand t'as 9 de tes joueurs qui ont autant donné dans la préparation.
Mais on peut pas être partout.
C'est ce qu'on appelle la préparation invisible.
Oui,
ça.
Mais par contre, t'as l'effet qui se coule. C'est-à-dire que le match d'après.
Là, ils seront bons.
Exact.
C'est ça. Voilà.
Ah, et oui. Il connaît ça par cœur, évidemment. Le prince de l'after qui a hâte d'être à la prochaine Coupe du Monde, celle au Qatar, évidemment. Au moins, il aura des places. Ali Benarbia. Salut Ali.
Non, pas des places, c'est des fauteuils là-bas.
Ah oui,
tout ce qu'il faut comme au cinéma.
Est-ce que tu pourras nous amener là-bas? On pourra venir avec toi ou pas? Tu auras des fauteuils pour nous?
T'as le visa?
Non,
bon, on va se procurer, Ali.
On fera des efforts, spécialement pour 2022.
J'aimerais bien.
Je vous garderai une teinte.
Dans un fauteuil à côté d'Ali, ça doit être quand même plutôt pas mal. Hein. Mmh. Appelez-nous au 3216. Vous pouvez également participer à cette émission via le hashtag RMC Live ou sur le site Facebook de l'émission. Avant de débuter le débrief, je sais qu'Ali et Daniel ont plein de choses à vous dire sur cette rencontre de l'équipe de France. Je le disais, les adversaires des Bleus qui ont également joué cet après-midi, match amical. L'Australie s'est imposée 2-1 face à la Hongrie. Match assez mauvais et but assez catastrophique, mais victoire au buzzer des kangourous. Suède-Pérou 0-0, victoire donc du Danemark face à nos amis mexicains 2-0 dans les autres matchs de préparation. Estonie-Maroc 3-1 pardonnez-moi pour le Maroc. La Serbie s'est imposée 5-1 face à la Bolivie et l'Espagne s'est imposée 1-0 tout juste face à la Tunisie. Parlons maintenant de l'équipe de France. Venez nous interpeller au 32-16. Cette équipe de France a donc fait match nul pour son troisième match de préparation face aux États-Unis. Messieurs, est-ce que vous êtes déçus, Daniel?
Déçus, oui. Et évidemment, moi je pensais que c'était impossible de ne pas gagner ces matchs de préparation parce que t'affrontes quand même des équipes, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes qui font des matchs amicaux avant la Coupe du Monde. Certaines rencontrent des adversaires qui vont également être à la Coupe du Monde et qui ont donc plutôt intérêt à chercher les automatismes, à se mettre en confiance. Quand tu joues des équipes totalement en vacances, normalement tu gagnes parce que la motivation est plus importante et je n'envisageais mais absolument pas, je pense même que je suis pas très parieur en foot, mais j'aurais pu miser beaucoup d'argent sur la victoire des Bleus sur un match pareil, je me serais bien ramassé parce que je voyais pas, en plus c'est une équipe universitaire là, comme on disait dans le basket à l'époque là pour les Américains, c'est une équipe jeune qu'il résiste à ce point et surtout qu'il pose des problèmes, que les Bleus n'arrivent pas à trouver les solutions. Oui, grosse déception du jeu offensif, grosse déception de toutes les lignes, du gardien à l'avant-centre. Il y a, enfin, tout le monde a déçu quoi. Alors est-ce que c'est la préparation qu'il faut digérer? J'ai du mal à comprendre parce que j'ai peur que si on cherche à comprendre, on va être inquiet.
Et évidemment, on va revenir ligne par ligne et joueur par joueur pour avoir aussi votre impression. Mais d'abord, le constat. Il y avait l'idée d'une montée en progression quand même. L'Irlande, l'Italie, pas forcément au niveau des équipes, mais au niveau des résultats. L'Irlande, on s'était un peu ennuyé, mais victoire. L'Italie, c'était mieux. Et là, On a l'impression d'un coup d'arrêt. Ali.
C'est pas un coup d'arrêt pour moi. En fait, cette équipe de France manque de cerveau. C'est-à-dire que arrivé à un certain temps, quand tu es face à un bloc, tu as une solution, tu dois donner une réponse. Quand c'est une équipe qui contre-attaque, tu dois donner une réponse. On appelle ça une équipe assez intelligente. Et au niveau international, si tu dis que ton équipe de France est censée être dans le carré, voire dans le quart de finale, je suis désolé, pour être dans les 8 meilleures équipes, si tu n'as pas une équipe qui a cette faculté à répondre à l'adversaire et à s'habituer à être un petit peu caméléon pour avoir des réponses positives, automatiquement, tu n'es pas prêt à vouloir aller chercher, gagner cette Coupe du Monde ou être parmi dans le carré. La preuve, tu tombes contre une équipe, comme il a dit Daniel, universitaire. Ben, c'est bloc bas, ce qui est normal, ça peut arriver, ça m'est arrivé souvent. C'est mieux qu'à des espaces, mais qu'elle bloc bas, c'est pas pour autant que tu n'as pas de solution. On a vu quelqu'un avoir des solutions. Ça a été qui est rentré? C'est Nabil Fekir, qui a cette faculté, par la passe, par fixer, par dribbler, par frapper, parce qu'il a donné la réponse à un moment, quand c'était trop bloc, ils attendaient, mais il a mis une grosse frappe de loin, ce qu'on n'a pas vu depuis le début du match, on n'a pas vu cette réponse-là. C'est pour ça que je dis, ils ont beau se jouer tout le temps dans les pieds, où on n'a pas d'espace, on n'a pas de jeu à trois, mais simplement à deux, je t'ai vu, je te donne la passe, je contrôle, je t'ai vu, je te donne la passe, mais le fameux trois qui déboussole une défense, on ne l'a pas vu, et ça, pour ça, il te faut des cerveaux aussi habile au niveau football, pas que suivre exactement le poste et faire ton travail, ça ne suffit pas.
Jean-Christophe, je suis pas très d'accord avec toi quand tu dis que contre l'Italie, t'avais été rassuré. Si tu
non, il y avait une montée en puissance.
Je suis pas vraiment sûr. Si tu regardes de près ce match-là et que tu regardes la façon dont les Bleus ont marqué, le premier, c'est une grosse erreur de la défense italienne. Il y a le but. C'est jamais alors quand un mec met un très beau but comme celui de Dembélé, oui évidemment que ça compte,
oui, c'est joli.
Mais ça masque aussi des choses dans le jeu. T'avais pas beaucoup plus finalement. T'as une équipe italienne qui avait cherché à jouer, donc qui avait laissé un petit peu d'espace. Là, la problématique du soir, c'était le bloc bas, sans parler en plus de phases de jeu assez importantes durant lesquelles les Italiens avaient même dominé la rencontre. Là, les Américains ont fait une frappe, un but, ils ont défendu de façon même plutôt intelligente. Parfois, été assez surpris de leur sortie de balle. Je ne les pensais pas si techniques.
Luxembourg, Daniel, on revient pour Luxembourg.
Et finalement, je suis pas sûr que les matchs d'avant étaient à ce point rassurants. Et celui de ce soir, dans une config qu'on n'aime pas, c'est-à-dire où il faut faire le jeu, où tu regardes de plus près nos individualités, les différences qu'elles peuvent faire, parce que le jeu collectif est pas huilé, eh bien, t'es déçu. Et à l'arrivée, moi, je trouve que le pire du pire de ce match-là, c'est que à au moins 70% des postes, tu te poses des questions. On est à une semaine de démarrer la Coupe du Monde et je suis sûr que tu vas te dire le gardien, gros point d'interrogation, les latéraux, tout le monde est en train ce soir de dire et si Pavard et Lucas Hernandez, c'était mieux que les deux qui ont des statuts de titulaire que je ne sais même pas d'où ils se sont fabriqués des statuts de titulaire, Sidi B et Benjamin
Mendy.
Je ne sais même pas où ils les ont obtenus, ces statuts-là.
Quand tu parles des points d'interrogation, non. Mais je pense que le problème, c'est que tu as des joueurs qui n'ont pas de point d'interrogation. On en parlait avec Hugo Lloris, et tu as plusieurs joueurs qui n'ont pas de point d'interrogation dans le sens où ils pensent vraiment, Daniel, qu'ils vont débuter. Après, s'ils sont pas bons, il y aura des changements. C'est peut-être le problème.
Il y a des questions qui se posent sur certains joueurs. Je trouve qu'à une semaine de la Coupe du Monde, c'est pas normal. C'est pas normal que d'un coup, tu te mettes à paniquer sur tes latéraux et à penser que les deux qui sont censés être tes remplaçants doivent être ceux qui vont jouer, que le match de Matuidi ce soir repose les vieilles questions sur lui et sur sa faculté à être réellement titulaire, parce que tu le mets parce que t'es à peu près sûr des matchs qu'il va te faire, même si tu sais qu'il n'y a pas de fioritures, c'est solide, mais là ce soir il apporte rien du tout. Kanté, on va redire encore une fois que 6 dans un schéma comme ça, c'est pas le poste dans lequel il est le plus à l'aise. Pogba, bon ben moi je veux bien, il y en a encore ce soir qui vont essayer d'être les avocats de Pogba. Moi j'ai pas de problème, je vais m'arrêter juste 2 minutes là-dessus. Je vais te poser une question, Ali, parce que tu connais le milieu de terrain et ces postes-là. Quel est le milieu de terrain au monde, dans ceux qui sont forts quoi, qui font autant de gris-gris et de chichis sur un terrain? Tu sais les espèces de passements de jambes
non.
Ou les petits machins
à ce poste. pas à ce poste et pas
Dis-moi à quel autre poste t'envoies toi, vas-y dis-moi.
Non, tu peux avoir des
joueurs
comme
ça au milieu qui font ça.
Non, pas au milieu.
Non mais
proche
tu sais les,
but, oui.
Les espèces de passements de jambes les, ouais. Dans les milieux de terrain où les mecs qui font des petits gris-gris ou qui font des petites demi-tours sur t'en connais toi? Moi j'en connais pas.
Non mais je vais te répondre Daniel.
T'en connais toi?
Daniel, je vais te répondre.
Tu vois les milieux de terrain qui font ça aujourd'hui?
Non, c'est vrai mais sur ce match-là, j'ai trouvé que par rapport à la prestation de l'équipe de France, c'était non, de très loin pas le plus mauvais.
Non, Pogba était plus
concentré. Pas le plus mauvais dans le match, ça je suis d'accord. Mais étant donné que c'est au milieu de terrain un de tes joueurs un de ceux qui doit éclairer ton jeu,
je vais te répondre pour les Grégory. Par contre, je vais te répondre pour les Grégory, c'est pas ça. Tu sais pourquoi Pogba fait des Grégory au milieu de terrain?
Pourquoi?
On le voit de plus en plus. Parce que pour lui, c'est la seule façon, en ce
de
moment.
De se remarquer?
Non, même pas.
De quoi?
De pouvoir, en des temps, faire en sorte que l'adversaire lui laisse les 1-2 mètres parce qu'il ne le fait pas physiquement, une technique, si tu veux, comment dire, en action.
Oui, non, mais c'est ça.
Et c'est son problème.
Ça répond pas vraiment à ma question. Moi, je dis, dans les joueurs de haut niveau.
T'en as pas?
Y a pas de mecs qui se font ces trucs-là. C'est quoi son délire, en fait, de faire ça? C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut prouver quand il fait ça?
Mais c'est même pas il veut prouver.
Ça, en fait, ça n'a pas
c'est
de sens.
Sa façon
le nombre de
jouer,
fois où il
Daniel.
Fait les 3-4 dribbles comme ça, en plus, à chaque fois, il part le ballon derrière.
Ouais, mais c'est sa
à
façon
quoi
de
ça
jouer.
Sert, en fait.
Il ne sait jouer que comme ça.
Non, mais d'accord, mais il le voit pas que personne ne fait ça dans
mais
le haut niveau.
Mais c'est ta façon de jouer, Daniel. Tu vas pas changer.
Bah, moi, je pense que c'est un problème.
Ouais, mais c'est sa façon de jouer.
On va continuer de se poser des questions sur
c'est pour ça,
de
mets 2-6 côte à côte un peu. Costaud et puis tu laisses libre Fekir de faire le jeu
non,
quoi,
et tu mets un joueur plus offensif en plus.
Ouais voilà, tu mets un joueur plus offensif que tu vas
comme
libérer.
Lémar. Moi j'ai bien aimé
ou Lemar, Fekir, un mec capable Lémar, de donner Fekir. Des ballons
non,
et va jouer
retourne,
quoi.
Et qui se retourne.
Mais là et puis au moins t'auras Kanté avec un mec à côté de lui dans un schéma à deux, ce sera mieux.
Les individualités ouais, voilà, par évidemment exemple. De l'équipe de France en question. D'ailleurs, commencez à réfléchir parce que hier on était en train de se dire à la vue de la composition d'équipe ce soir de Didier Deschamps,
ça serait le 11.
Ce serait le 11. Face à l'Australie, est-ce qu'on va avoir des surprises? Essayez d'anticiper cette question. Mathieu nous appelle au 32-16. Salut Mathieu.
Bonsoir à tous.
Salut Mathieu.
Tu veux nous parler des latéraux?
Oui, j'aurais d'abord une petite question à vous poser avant de vous donner mon avis.
Vas-y.
En théorie, à une semaine de la Coupe du Monde, sur l'équipe titularisée ce soir, normalement un entraîneur est censé, je pense, sortir un 11 qui devrait quand même ressembler à 80% au 11 titulaire.
Ah bah c'est celui que t'as vu ce soir à 80%, il démarre la semaine prochaine.
D'accord. Alors pour répondre à ça, Daniel, moi je suis très inquiet pour une chose, c'est simple. On a la capacité de faire une Coupe du Monde et d'aller très loin dans cette Coupe du Monde. La capacité, elle est
moi je
où,
sais pas
qu'est-ce
qui te permet de dire qu'on a cette capacité, Mathieu.
Moi, c'est que par rapport aux individualités et aux joueurs qu'on a. Tout va dépendre des choix de Didier Deschamps. Pour moi, il est clair que ce soir, la composition initiale, sur le papier, on peut pas aller loin avec cette équipe en Coupe du Monde. Pas dans la façon dont on a joué ce soir. Il y a erreur de casting au niveau des latéraux. Je suis désolé, mais Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sont excellents, ils sont insouciants. Et je pense que dans une équipe, on a aussi besoin de cette insouciance, de pas se poser de questions, d'aller vers l'avant, de centrer, de s'appliquer.
Je sais pas si les deux autres se posent des questions, c'est juste qu'ils sont pas bons, quoi. Sidibé, je suis désolé, mais à quel moment Sidibé a été bon? Il reste sur son année à Monaco où ils vont loin en Ligue des Champions.
Ouais, je l'ai bien aimé à l'équipe de France.
Où il était dans un 4-4-2, donc dans un schéma bien défini avec les fameux doublettes sur le côté. Mais bon, sinon, Sidibé, je sais pas moi, à quel moment ça a été un crack? À quel moment ça a été un crack ce joueur?
Pas un crack, mais au moment où t'avais plus de latéraux, Daniel. Souviens-toi.
Ça a toujours été un problème depuis des années en équipe de France,
exactement.
Le problème
c'est,
des latéraux.
C'est peut-être pour ça. Moi, je pense que c'est peut-être pour ça. C'est que le seul qu'on vous voyait qui était capable d'essayer de défendre.
Mais tu veux dire que c'était faute de mieux. Mais comme maintenant, il y a mieux avec Pavard, faut faire jouer Pavard.
C'est récent. Hein. C'est vrai, mais c'est récent, Pavard. Encore, on a un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il est capable de faire dans sa position de titulaire? Là, il est content parce qu'il est un numéro 2 et il apporte.
Et est-ce que vous pensez que les deux sont sur le même pied d'égalité et on doit se poser la question pour les deux, pour Mendy ou pour Sidibé, ou c'est vraiment plus pour Sidibé que le bas blesse?
Non mais, excusez-moi, mais Mendy, encore
Mendy
une fois,
n'a pas joué.
Lui aussi mange sur cette fameuse saison à Monaco. Mm-hmm. Enfin, dans la foulée de cette saison monégasque, il n'y a pas que... La plupart des mecs qui étaient dans cette équipe n'ont pas continué à être extraordinaires.
Non. Bernardo Silva, il a...
Donc ça s'est déjà vu dans l'histoire du foot, des mecs qui sur une saison cassent la baraque et l'année d'après sont moins bons. Donc moi je veux bien, mais c'est quoi le CV de Benjamin Mendy en équipe de France? C'est pas le gars qui arrive, les gars, moi je suis titulaire, surtout qu'en plus à sa décharge, il a été blessé quasiment toute l'année. Ouais. C'est pas des mecs dont on enfin qui nous offrent des garanties extraordinaires. Tu l'as on les connaît pas en compétition.
T'as pas beaucoup de garanties. On va écouter Blaise Matuidi en direct après cette rencontre.
Mais malheureusement, je pense qu'on a dans les 30 derniers mètres, je pense qu'on aurait on a manqué de jus. On n'a pas été assez tueur, alors peut-être aussi dû aussi à la semaine qu'on a passée. On avait eu une grosse semaine, on a beaucoup travaillé physiquement. Et voilà, après c'est pas une excuse non plus, mais je pense qu'il faut il faut prendre conscience que on aura aussi des adversaires comme ça qui nous laisseront la possession et qui essaieront voilà de jouer leur va-tout sur le peu d'occasions qu'ils auront. Ça a été le cas aujourd'hui sur une demi-occasion, ils mettent un but, donc faut être vigilant là-dessus et essayer bien sûr de faire plus quand on a le ballon et avoir encore plus de disponibilité et comme j'ai dit être encore plus tueur dans les zones de vérité.
Pour l'état d'esprit de ce groupe jeune, on peut vite douter d'ailleurs.
Blaise Matuidi en conférence de presse après le nul 1 partout des Bleus.
Non, faut pas s'inquiéter justement nous il faut essayer d'être positif et bien sûr dans les trois matchs, il y a eu de très bonnes choses et il y a eu aussi de moins bonnes. Donc voilà, il faut essayer de gommer les moins bonnes et garder les très bonnes choses. Même ce soir, il y a eu de très bonnes choses aussi.
Et voilà pour la première réaction de Blaise Matuidi après ce match nul de l'équipe de France, un partout. Alors, début d'explication peut-être ou élément de langage, je vous pose la question. Parce que dans son intervention, la première intervention de Blaise Matuidi, il dit on a beaucoup travaillé physiquement et ça peut se comprendre. Il nous a manqué un petit peu de jus.
C'est possible
Didier
que Deschamps, le jus ait manqué, oui, bien
Didier
sûr.
Didier Deschamps sur TF1, c'est toujours mieux de gagner, mais ce sont des matchs de préparation. Il nous a manqué un petit peu de jus.
Oui, tu peux même si te manque du jus, j'y sais. Tu arrives à avoir la fluidité.
Et puis c'est quand même t'as toujours joué dans leurs 30 mètres, donc même s'il te manque un peu de jus, genre merde quand même, tu fais pas un partout contre cette équipe là quoi.
Mais tu as la capacité à monter ton niveau, pas au niveau du jus, mais par l'intelligence offensive, par tes individualités. On nous dit tellement qu'on a les meilleures individualités du monde.
Mais qui dit ça? C'était convaincu de ça toi?
Non mais la plupart.
Bah, par rapport au Brésil, à l'Espagne, à l'Allemagne, la Belgique,
non,
où est-ce que t'as des mecs
Pour moi, non. On nous dit que les Mbappé, les Dembélé, les Griezmann, les Fekir, on nous sort plein de joueurs qui sont capables de faire à eux la différence. Mais la différence, elle se voit normalement en équipe de France, en un contre un, mais à chaque fois qu'ils touchent le ballon et qu'ils font la différence. Mais pour l'instant, nous, on ne la voit pas. Moi, je la vois pas. Je vois pas du tout un Mbappé, un Griezmann écraser l'adversaire qui plus est n'est ni le Brésil, ni l'Argentine, ni l'Allemagne. Ce sont juste des équipes internationales comme ce soir on a eu les États-Unis. Je les ai pas vus faire la différence parce que il y a des gros talents. On a des gros talents. J'ai pas l'impression de voir ça.
Allez, on continue de débriefer cette rencontre dans l'after. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Mathieu, une dernière question pour toi. Merci de nous avoir contacté au 32-16. Est-ce que, à la tête de l'after, tu m'aimes énormément, Mathieu? C'est très important, cette question.
Je vous aime toutes.
Ok. Je suis pas tellement convaincu, Mathieu.
Toute l'équipe.
Toute l'équipe.
T'as besoin de câlin,
je sais. Non,
j'ai pas besoin de câlin, j'avais juste besoin d'un bon mot parce que Mathieu, je vais t'offrir, et il y en aura d'autres dans cette émission, le maillot de l'équipe de France.
Floqué.
Comme tu veux.
Mathieu, mais faut pas hésiter quand on pose une question comme ça.
Quel joueur t'aimes à la folie?
Moi j'ai une question. À ton avis, quel joueur je vais choisir de floquer?
Je pense que tu vas mettre Pavard.
Eh ben, t'as tout juste. Je vais faire floquer par Benjamin Pavard.
Mais pourquoi? D'accord. Comment tu l'as su, toi?
Bah, parce qu'il a dit du bien de Pavard.
Parce qu'il est pas bavard.
Bravo. Ouais, bien, Ali. Oula,
parce qu'il est
oula,
pas
oula,
oula, oula, oula. Oui. Ali, la prochaine fois, attends la pub pour ce genre de blague. Ça
non, je trouve que c'était le bon moment. Mais non, c'est comme une passe. C'est au bon moment. Tu peux pas choisir.
Bon, bah, Mathieu, il y a un moment pour. Le flocage Pavard, il y a aucun problème. Prends pas trop de risques non plus, évidemment. Mais en tout cas, je suis sûr qu'il y en aura pas 50 des comme ça. Voilà, le maillot floqué de l'équipe de France pour toi.
Merci les gars, merci beaucoup en tout cas.
Et à bientôt, n'hésite pas à nous rappeler au track de 16. Nous on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'after avec Ali Benarbia, encore très chaud hein, avec beaucoup de blagues, et Daniel Riolo, très chaud comme d'habitude. Et on va parler des individualités, à tout de suite sur RMC.
RMC, le super football show, l'after foot, Jean-Christophe Drouet.
L'after jusqu'à minuit, nous sommes là pour débriefer ce troisième match des Bleus, troisième match de préparation à la Coupe du Monde et patatras, un partout face aux États-Unis. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément vu venir ce match nul, toujours avec Daniel Riolo, toujours
j'avais
avec
mis 3 buts d'écart,
Ali Benarbia.
Moi aussi, hein,
dans une semaine, c'est France-Australie, quels enseignements pouvons-nous tirer de ce match de préparation? Évidemment, on se pose toutes ces questions. Appelez-nous au 32-16 pour nous interpeller, comme Mickaël, supporter notamment de l'Olympique de Marseille. Salut Mickaël.
Oui, bonsoir tout le monde.
Salut Mickaël.
Salut Mike.
Alors, tu veux nous parler, et Daniel en a parlé très brièvement en début d'after, d'Hugo Lloris.
Oui, Lloris, en ce moment il est à la rue. Hein. Je trouve... Enfin, déjà, j'ai vu sa saison un peu avec Tottenham. Je trouvais qu'il dégageait pas vraiment de confiance. Il avait pas mal de bourdes. Et là, face à l'Italie, déjà son coup franc qui relâche sur un Italien, j'ai pas trouvé très très confiant. Très.
On n'est pas loin d'une faute par match. Hein.
Bah ça, hein, contre la Colombie, je crois qu'il en a fait une aussi. Hein, mais je m'en rappelle plus, mais je crois qu'il en a fait une.
Non, mais on est effectivement, on n'est pas très très loin. On n'est pas très très loin de la passoire là.
Moi je comprends pas. Est-ce que Mandanda?
Tu vas me venir à Mandanda.
Ouais, mais est-ce qu'on la vraie question, Mickaël, et je vais la poser à Ali et à Daniel, c'est est-ce qu'on peut encore prendre ce risque? Est-ce qu'il n'est pas trop tard maintenant pour changer le poste de gardien?
Lloris bougera plus là, c'est le capitaine, non, ça va.
C'est pas la bonne question.
Ça va pas bouger.
Oui,
la question c'est est-ce qu'il y a concurrence entre Lloris et Mandanda? Il y a
le pas problème,
de concurrence.
Le problème c'est que Mandanda a malheureusement pas plus de référence aujourd'hui. Il est un peu pas sorti du circuit parce qu'il est là à l'OM, mais
il fait une meilleure saison, par exemple.
Mais le problème, c'est que les saisons, elles se comportent pas en fonction des clubs. Mandanda, en plus, il a été blessé sur la fin.
Il a eu un trou en Angleterre.
C'est ça.
Et de toute façon, la question ne se pose pas. S'il y a un poste où ça se pose pas,
Et effectivement, je ne peux plus constater qu'il n'est pas vraiment rassurant.
Alors, la question qui n'est pas gagner les matchs.
En même temps, il y a c'est à cause aussi de ces défenseurs centraux, hein, parce que les deux là.
Mandanda, si tu prends sa saison, lui aussi, il y a quelques boulettes qui traînent, mine de rien. Hein,
Oui, mais en équipe de France, le dernier match, il a été bon.
Ouais, mais tu vas pas prendre un match où il a joué. Tu vois, dans ces cas-là, tu trouveras aussi des matchs où Lloris a été bon. Contre l'Allemagne, à l'Euro, tu vois, tu vas en trouver des trucs. Mais effectivement, aujourd'hui, arrêtons-nous juste à ce premier constat, et là, on est d'accord. Ouais, Lloris, c'est pas rassurant. Lloris fait des fautes. Il entraîne quelques-unes, là, depuis son dégagement foireux contre la Suède. Chaque match, je le trouve moyen ces derniers temps.
On n'a pas l'impression, puisqu'on dit que c'est un capitaine, un gardien de but, qu'il a une osmose avec sa défense, du tout.
Mais oui.
J'ai pas cette impression.
Les deux, c'est des suiveurs, là. Et Varane.
Ouais, c'est les Milou, ils sont là d'ailleurs. Ils sont avec moi, comme à chaque fois, mes Milou. Hein.
Ma charnière.
Ouais,
ils sont là, les Milou. Qui sautent et qui mettent Rami à la place, qu'il faut un meneur d'homme. Hein. Il faut un mec qui gueule et qui dit à ses défenses de remonter ou d'attaquer. Moi, je trouve qu'il faut qu'il y ait un mec qui décide dans la défense. Parce que les deux, à chaque fois, on dirait qu'ils se regardent. La deuxième mi-temps, là, il y a eu une action. Juste une action américaine, c'était le feu. Il n'y a personne qui allait prendre le mec. Le mec, il a eu tout le temps de mettre une frappe. On dirait qu'il regardait, c'était des plombs.
Oui, tout simplement, ce que tu dis, c'est que globalement, au-delà de Lloris, il n'y a pas grand-chose qui est très, très rassurant. Et tu sais, si tu prends nos derniers matchs, souvenons-nous, il était quand le France-Colombie, là?
Bah, il était en mars.
Parce que pour moi, c'est celui-là qui est le pire de tous.
Bon, c'est fait manger, hein.
Celui-là, pour moi, avait été très, très dur.
Le 3-2, ouais.
Parce que en une mi-temps, les Colombiens nous avaient complètement retournés. En faisant rentrer leurs bons joueurs. Et là, c'était une vraie équipe. Parce que c'était une équipe avec des bons joueurs.
Avec un tout. L'agressivité, les duels et la technique.
C'est ce match-là qui, pour moi, est vraiment révélateur. Et c'est vrai que sur ces derniers mois, il n'y a pas énormément de choses rassurantes pour les Bleus, mine de rien.
Le mot de la fin, Mickaël.
les deux défenseurs centraux en club, ils ont pas l'habitude de, enfin c'est pas des meneurs d'hommes, donc il faut pas s'attendre à ce qu'il y en a un des deux qui
détache. C'est pas pour rien qu'ils sont que c'est Milou, hein. On n'a pas de Tintin, on le sait qu'on n'a pas de Tintin en équipe de France.
Non, mais parce que j'ai entendu qu'il faudrait qu'il y en ait un des deux qui soit un meneur d'homme.
Mais quand t'as pris l'habitude. Il va pas s'inventer, les mecs,
ils le deviennent pas.
Quand t'as pris l'habitude de suivre des ordres, parce que Piqué et Ramos, c'est eux qui disent.
Bien sûr, c'est eux les Tintins.
Michel,
il faut qu'il y en ait un des deux qui saute.
À un moment, on quitte tous le nid et on quitte tous les parents. Hein. Il y a un moment, il faut devenir grand et on espère.
Ah oui, Milou est devenu Tintin dans quel album? Excuse-moi, mais
sur cette métaphore,
tu peux faire une carrière de Milou et ta carrière sera belle. Ta carrière, elle sera belle en étant. T'en as connu des seconds couteaux qui ont fait une très belle carrière.
Rami est moins doué. Bah, au moins lui, il sait mener une défense, quoi. Il sait dire à ses défenseurs de monter. Il rassure.
Toi, tu veux un peu nous casser tous les Marseillais,
Mandanda. Merci beaucoup, Mickaël. Merci.
Mais il a l'expérience.
Priorité au direct. Merci d'avoir composé le 32-16. Didier Deschamps en conférence de presse.
Dans un système qui laisse beaucoup moins d'espace, et à partir de là, il faut un peu plus de justesse, de mobilité, et avec des jambes un peu plus fraîches, ça aurait pas été de trop. Malgré tout, il marque sur, forcément, il y a une erreur de notre part, mais sur la seule occasion qu'ils ont, le fait d'être revenu, c'est bien, on aurait même pu l'arracher, même si le score, ça reste anecdotique, mais ça rentre dans une préparation aussi. Je vais pas dire que ça me fait plaisir d'avoir eu des difficultés ce soir, mais s'il y en a qui pensaient qu'on allait être euphorique, ça va pas être le cas, parce qu'on va être dans la difficulté aussi. Et cette équipe, le premier adversaire, l'Australie, qui a battu la République tchèque, qui a battu la Hongrie aujourd'hui, quoique je pense pas qu'elle sera dans le même système, mais elle peut changer aussi. Donc évidemment, la dernière semaine, c'est la semaine d'affûtage. Donc ces trois matchs nous ont permis d'avoir différents enseignements qui peuvent varier d'un match à l'autre. Je prends un exemple, Paul Pogba, son match de samedi et le match d'aujourd'hui. Donc il faut relativiser par moment aussi. Si tous les joueurs sont à leur meilleure forme à leur poste, il y a moins de soucis en général pour le collectif. Mais j'ai un groupe avec de la concurrence à beaucoup, 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 à tous les postes, pratiquement. Donc et avec ils sont tous censés pouvoir débuter, ça sera pas le cas, mais on aura trois matchs, donc et les joueurs qui sont rentrés sur ces trois matchs, ça n'a pas été toujours une de nos qualités dans la phase de qualification à l'Euro, pas toujours non plus, à part Antoine une fois au deuxième qui est rentré, qui a marqué. Il faut qu'on garde ça, on aura besoin de ça aussi, mais j'en aurai moins puisque j'en aurai que trois.
Référence aux joueurs qui n'ont pas forcément marché lors de l'Euro 2016, en tout cas les remplaçants qui n'ont pas marqué, notamment les attaquants. Remplaçant Didier Deschamps en conférence de presse après le nul un partout entre la France et les États-Unis.
Je suis pas allé jusqu'à j'ai des inquiétudes, évidemment, si on fait pas d'erreur. Après, ça peut être le mérite de l'adversaire, mais là, en l'occurrence, oui, c'est des erreurs qui nous pénalisent. Il faut gommer ça. Forcément. Alors ça passe par du travail, un peu plus de sérénité peut-être aussi. Il y a un peu de tout, mais oui, au niveau, la rigueur défensive est très importante.
On écoute tout de suite Antoine Griezmann.
Et Danemark, donc voilà, bien regarder ce match, trouver les solutions et essayer de gagner dès le premier match, parce que c'est le plus important.
Et pas se voir trop beau.
Non, je pense pas qu'on se voit trop bon. On a les pieds sur terre, on a envie de gagner. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance et on a l'impression qu'on se la raconte un peu, mais c'est pas du tout le cas. On est vraiment tranquille, on a confiance en nous et on sait qu'il faut encore travailler pour être prêt.
En fait, vous avez senti les contours.
physique finalement après cette semaine?
Non, je sais pas, peut-être après c'est vrai qu'il y a une bonne prépa, mais on va pas mettre l'excuse à la prépa. Après la compète commence que dans une semaine, donc voilà, c'était prévu et je pense que physiquement on va être bien.
Antoine Griezmann en zone mixte qui nous parle évidemment de ce match nul. Lui ne veut pas trouver d'excuses, lui ne parle pas de la charge de travail cette semaine pour cette équipe de France. Le sélectionneur des États-Unis a déclaré un tel match. On n'aurait pas pu rêver mieux. L'idée pour nous, c'était de donner une opportunité à des jeunes joueurs de jouer contre des grandes équipes comme la France à l'extérieur devant un super public. On a bien défendu et dans l'ensemble, c'était une belle prestation. Les Français ont des joueurs très forts, expérimentés à tous les postes. Ils sont très dangereux en contre-attaque. Ils seront prêts mentalement la semaine prochaine. Voilà pour sa déclaration. Et pour clore sur le débat, Hugo Lloris, une stat à vous donner parce que elle interpelle forcément. Hugo Lloris a encaissé au moins un but lors de ses 5 derniers matchs en bleu, sa deuxième plus mauvaise série après ses 8 matchs entre septembre 2012 et juin 2013. Donc ok, Hugo Lloris n'est pas en concurrence, on l'a bien compris, Ali Benarbia, mais est-ce qu'un Hugo Lloris à ce niveau-là peut nous permettre d'aller vraiment loin dans la compétition?
Voilà, c'est ça la question-réponse en fait. C'est très bien dans le sens où est-ce qu'il te sauve un match quand tu n'es pas bien? Parce que pour moi, un bon gardien, j'ai eu la chance d'en avoir avec moi, que ça soit Barthez, que ça soit Lama ou Schmeichel ou Ulrich Ramé, c'est au moment où t'es pas bien que t'es censé gagner. C'est là qu'il te le fait, les deux arrêts qui te permet d'être à 0-0, et puis c'est là que toi tu marques le but. Après tu déroules avec des contre-attaques d'espace et tu gagnes 3-0, t'es content parce que ton gardien t'a permis quand t'étais pas bien. Est-ce que Hugo Lloris a cette faculté à le faire? Pour moi, je ne le pense pas.
Daniel?
Non, mais moi j'ai un petit peu de mal juste avec le raisonnement de départ qui est que forcément, je sais pas pourquoi, dans la tête des gens, il semble inscrit que l'équipe de France doit aller loin à la Coupe du Monde. Mais moi je sais pas ça en fait. Ce que je dis ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire.
Oui, ça oui.
Mais je vois pas pourquoi ça a l'air d'être dans la tête des gens
normal.
Quelque chose d'automatique,
parce
ou normal.
C'est le fameux
aujourd'hui
flash.
La concurrence dans le foot, elle est plus forte qu'il y a quelques années. Moi je donne pas le match contre le Pérou gagnant à 100%. D'abord, je veux le voir. Contre le Danemark, je veux voir. Il y a des gens aujourd'hui, j'ai l'impression dans le foot, je sais pas si on est déformé par les paris sportifs, mais on a l'impression que à partir du moment où t'es favori ou t'as des joueurs qui sont meilleurs, tu dois gagner.
Oui, c'est ça.
C'est comme si c'était écrit à l'avance.
Non,
des trucs.
Daniel, moi je veux pas écrire à l'avance.
Moi je veux les voir.
Moi la question c'était de savoir si avec Hugo Lloris dans cet état de forme, l'équipe de France peut aller loin. Mais c'est pas moi qui dis que l'équipe de France doit aller loin. J'en ai envie. Mais comme nous tous, ok.
Loin.
Mais en plus, Noël Le Graët a visé le dernier carré.
Mais c'est... je m'en fous de ce que dit Noël Le Graët.
Oui,
Noël Le Graët, il... retiens-moi. Dis-moi vite de me taire. Dis-moi tais-toi, parce que ça va sortir. Bon, ok.
Passons
sur Noël Le Graët. Attends, c'est que t'as risqué la boulette, hein. T'aurais été emmerdé. Moi aussi, j'aurais été emmerdé.
En plus, j'ai pas signé le contrat encore, donc si tu peux ne rien dire.
C'est bon, je me suis calmé. Donc bon, mais... Enfin, c'est une absurdité de dire on vise le dernier carré. Est-ce que tu sais avec qui tu vas croiser en huitième? Oui, à peu près.
Mais déjà,
est-ce que tu sais contre qui tu vas tomber en quart? Est-ce que tu sais si tu vas avoir des blessés? Est-ce que tu sais comment est l'état de forme de l'autre
Daniel,
équipe?
Quand t'es finaliste
c'est aberrant de dire ça.
Mais quand t'es finaliste
mais
de l'Euro...
Mais alors, t'as un abonnement donc. Donc toi, c'est comme ça la vie quoi. Voilà.
T'es
finaliste de l'Euro, donc c'est quoi? Il y a un contrat, t'as signé, tu dois être quoi? Quart de finaliste à la Coupe du Monde? Mais moi, je comprends pas ces raisonnements.
Demi-finale.
Mais où est-ce qu'on a vu que dans le sport c'était ça? Mais je comprends pas en fait.
C'est pas ça. C'est que tu vois la qualité de notre équipe et.
Mais la qualité, c'est pas une suite d'individualité, c'est un collectif.
Je parle pas d'individualité. Quand tu vois la qualité de l'équipe, je ne la vois pas avec cette qualité-là pouvoir boxer contre les costauds.
Okay.
Donc pour moi, je la mets pas dans les
costauds. Et les costauds, c'est qui les costauds? La Colombie, t'as eu du mal.
C'est ce que je dis, je les vois pas. Contre la Belgique, contre le Brésil, contre l'Allemagne, je les vois pas.
Okay. Mais tu crois, j'en sais rien, tu crois, Argentine ou Croatie. C'est gagné d'avance le truc?
Non, pas du tout.
Bon bah voilà, sais pas. Comment tu peux dire ça? On va aller en demi, on va aller à machin, j'ai un contrat là.
Déjà, le huitième, tu as un des deux de toute façon.
Machin dit,
un huitième, ça va être ou Argentine ou Croatie.
Ouais.
Ça se peut que tu t'arrêtes en huitième.
Si tu termines premier. C'est écrit d'avance qu'on termine pour. Mais moi,
je reprends la main. Supporter de l'équipe de France à l'occasion des matchs de préparation. Daniel, s'il te plaît, tais-toi. À l'occasion des matchs de préparation, j'en profite maintenant.
Ouais, t'as bien
je recommence. Supporter de l'équipe de France à l'occasion des matchs de préparation des Bleus, l'Afterfoot vous offre votre maillot. Remportez vous aussi votre maillot floqué en envoyant dès maintenant foot F. OOT au 732-16 foot au 732-16. Vous avez 20 minutes. Bonne chance et nous on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite dans l'affaire.
RMC, le super football show. L'Afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
23h46, la dernière ligne droite de l'after. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Appelez-nous au 32-16. Évidemment, on continue de débriefer le match nul des Bleus face aux États-Unis. Dernier match de préparation à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde pour l'équipe de France. Dans une semaine, samedi 16 juin, à midi, à Kazan, face à l'Australie. Toujours avec Ali Benarbia, toujours avec Daniel Riolo. Et aussi avec Emeric, qui nous appelle au 32-16, supporter des Bleus.
Pas désélectionné.
Salut Emeric.
Salut, bonsoir monsieur.
Tu voulais nous parler d'animation offensive.
Ouais, mais que j'étais bien content sur les deux premiers matchs amicaux du 4-3-3. Et là le 4-4-2 ce soir me déplaît beaucoup. Je pense qu'à chaque fois qu'on joue en 4-4-2, c'est un peu faible devant, il n'y a pas de vitesse. Griezmann, il est bridé et a l'impression qu'il peut rien faire en 4-4-2 qui voilà, en 10, c'est ni fait ni à faire pour moi en 10 Grisou. Et après devant, il y avait aucune vitesse par rapport aux deux premiers matchs. Donc je sais pas, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que je sais pas, il y a aucune liberté en fait en 4-4-2 et qu'il y a pas de vitesse à mener, rien du tout quoi.
L'animation offensive, moi je sais pas, tout le monde y va de son petit couplet sur ce qu'il préfère, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, mais de toute façon, à quel moment on a été absolument convaincu de la bonne animation offensive en équipe de France, même en remontant à l'Euro 2016, cher à Jean-Christophe, où on a fait demi-finale, ce qui nous autorise forcément à imaginer... qui nous autorise à penser qu'on va aller en demi dans cette Coupe du Monde. L'animation offensive, c'est pas quelque chose. Tu sais ce que c'est l'animation offensive des Bleus? C'est ce que tout le monde dit depuis 2 ans. On a des joueurs trop forts qui coûtent très cher.
Oui, c'est ça.
Voilà. C'est ça. Notre animation offensive, c'est. Je l'entends depuis des semaines, c'est. Oh, ils sont tellement forts, faut qu'ils fassent ce qu'ils veulent, les mecs devant, là.
Non, mais ça c'est.
Et c'est ce que j'entends, moi, c'est ce que j'entends partout. C'est ce que j'entends, moi, que nos attaquants, ils sont tellement forts, ils ont même pas besoin d'animation offensive.
C'est les meilleurs.
C'est les meilleurs, écoute, une blague.
Pas tous en même temps. Vas-y, Emeric.
Ouais, il y a de la, moi je parle pas de ça, les millions et tout ça veut plus rien dire. Maintenant, il y a des joueurs qui valent 20 millions alors qu'ils ont mis un but en Ligue 1, ça veut plus rien dire. Par contre, il y a de la rapidité, il y a de la technique, il y a du placement, il y a des trucs intéressants. Et là, ce soir, je suis désolé, Griezmann, il fait aucune accélération, ou une ou deux, peut-être. Il y a que Mbappé, à la limite, qui a été un peu plus remuant, mais parce qu'il a la fougue de la jeunesse et que, on sait que tactiquement, c'est pas le meilleur.
Mais Mbappé, ce soir, je comprends ce que tu veux dire, son activité certes, mais je sais pas où il a joué, moi.
Ouais, voilà, c'est ça, il pourrait jouer partout parce qu'en même temps
je sais pas où il a joué.
Difficile de le voir.
Le problème, tu parlais, Daniel parlait aussi des joueurs qui coûtent énormément d'argent. Toi, tu parlais, oui, il y a de la vitesse, il y a de la technique. Mais un grand joueur, c'est
quelqu'un... Tu fais jouer Griezmann, Dembélé, Mbappé.
Oui, tout le monde dit...
T'as 300 millions sur le terrain, ça gagne.
Exactement.
Voilà, le raisonnement pour beaucoup, c'est ça.
Mais en fait, le problème, c'est que... Ils sont trop prévus.
Tu as beaucoup plus.
Non, mais c'est pas ça.
300 millions en solde.
Ils sont trop. Le problème, c'est qu'ils sont trop prévisibles. Ils sont trop prévisibles et ils ne rechangent. Ils font exactement la même chose. Arrivé à un certain temps, tu ne peux pas surprendre une défense. Quand une défense n'est pas surprise automatiquement, c'est facile à défendre. Et je suis désolé, on n'est pas tombé contre la défense de la Juve, on n'est pas tombé contre la défense de l'Allemagne, là on tombe contre des équipes où normalement, même si s'accroche, on a vu le Luxembourg et on voit les États-Unis, tu peux quand même leur en mettre au moins 2-3, ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire qu'arrive un moment ou un autre,
ce match contre le Luxembourg.
C'est ce que tu vas avoir
ça
souvent
existait,
contre
ça.
Les petites équipes.
Ouais, à Toulouse.
Il y a moins d'espace contre les États-Unis que contre certaines équipes au mondial, je pense aussi. Donc
c'est pas sûr.
En vitesse, en percussion, on peut peut-être en planter plus facilement.
C'est surtout les autres qui peuvent en planter.
Mais bon. On a l'impression. Merci beaucoup, Emeric, de nous avoir
appelé
au 32-16 et de nous avoir donné ton avis. On a aussi l'impression que cette équipe de France, mais c'est aussi un peu le reproche qu'on lui faisait à l'Euro 2016. Dès qu'il faut faire le jeu, type la Roumanie, le match d'ouverture,
c'est très compliqué, mais contre l'Allemagne.
Type l'Albanie.
Mmh. L'Albanie aussi.
Non, mais l'Allemagne, ça peut pas être une référence.
Non, 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 je dis pas que c'est une référence. Je dis juste que quand l'équipe de France n'a pas le ballon, et surtout avec cette équipe avec des flèches devant, on sent que ce sera pas plus facile, c'est pas ça le terme. Mais on sent que ça correspond mieux aux qualités que l'on a.
Ah ben si t'as le cul bordé comme contre l'Allemagne à tous les matchs importants, genre il frappe 150 fois, il te met pas de but,
tu veux dire par là que si l'équipe de France n'a pas le ballon est meilleure, mais automatiquement c'est que cette équipe là.
Ça existe des équipes meilleures en contre.
Complètement. En contre, oui. Ça veut dire que cette équipe n'est pas prête à aller dans le dernier carré, parce que c'est ces équipes là qui vont dans le dernier carré. C'est celles qui ont un peu plus la position, qui mettent la pression à l'adversaire et qui leur font mal que ça soit une petite équipe ou une grosse équipe. Ce qui n'est pas le cas de l'équipe de France.
Okay. Là, le ballon, tu l'as eu ce soir, tu tournais tout le temps autour.
Mais qui tournait dans la défense, vide.
Mais en fait, tu tournais autour du pot. Il n'y avait pas réellement.
Mais ça joue trop dans les pieds, Daniel. Voilà. Chacun se donne le ballon dans les pieds. Mais moi, je suis défenseur. Le mec, qui joue tout le temps dans les pieds. Tu sais ce que je fais? Je fais un faux essuie-glace.
Dans les pieds, des fois, c'est même dans le dos.
Non, mais je suis tranquille. Mais quand ça part à 3 dans les espaces et que tu cours un petit peu à l'envers et que ça change de rythme comme l'a fait un petit peu Fekir à la fin ou un Lemar peut le faire, bah automatiquement, tu ne peux pas bien défendre. Et c'est là que se créent les espaces et les trous.
Farah nous appelle au 32-16. Salut Farah.
Oui, bonsoir.
Salut Farah.
Alors, dis-nous ce que tu as pensé de ce match, mais aussi l'évaluation, l'homme du match, le Casper, le Tolier.
L'homme du match, ça va être compliqué là, pauvre.
Bah ouais, bah en fait homme du match, je vais retenir la passe décisive, voilà, parce que en
de
plus
c'est
un nouveau, c'est tout frais, c'est changement par rapport aux idées arrêtées de Deschamps qui met des titulaires et qui attribue des statuts titulaires à des gars, on sait pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Et moi, j'ai surtout l'impression qu'on est surpris après ce match du niveau de jeu. On s'aperçoit qu'on n'est pas prêt. On s'aperçoit que peut-être l'Euro c'est un accident d'être en finale. On s'aperçoit que c'est pas l'Europe, là c'est le monde. On va jouer contre le monde. Et manquerait plus qu'on passe à 64 équipes et là on va se faire taper par Gibraltar. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est sur le cul. Et peut-être que j'étais la seule à pas y croire, hein. Mais je sais pas, je suis pas surprise en fait. Je suis pas surprise du niveau de jeu général. Je fais même pas d'analyse tactique, tout ça, parce qu'il y en a pas. Il y a pas de jeu, il y a pas de. Voilà, ça joue en contre, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un éclat de génie de l'un, c'est un coup de chance de l'autre. C'est une erreur de l'équipe adverse. Ça, c'est un système de jeu. Ça, c'est une philosophie de jeu, en fait.
Tu feras juste attention, ouais. Farah, tu feras juste attention, tu as laissé le clignotant. L'enjeu.
Non, c'est les warnings. Je suis prudente et je me suis arrêtée de téléphoner.
Tu as bien raison de t'arrêter pour téléphoner. Farah, même question qu'un autre auditeur. Ouais, un petit peu
mal,
plus loin.
Farah,
est-ce que tu m'aimes bien à la tête de l'after? Est-ce que tu m'aimes bien à la tête de l'after?
Oui, tout à fait.
Bingo, le cadeau.
C'est pas un grand oui, mais nous allons t'offrir. L'after va t'offrir le maillot de l'équipe de France et tu pourras le floquer à ta guise.
Oula, je suis obligée de le floquer avec l'un des présents.
Si tu veux mettre Farah derrière, tu fais ce que tu veux.
Je suis obligée de le floquer
avec un Farah.
Non, tu mets qui tu veux. Tu peux même mettre Neymar.
Benzema.
Ouais, on peut mettre Benzema, elle peut, hein.
Ouais, bien sûr, tu peux.
Tu peux, c'est autorisé.
Il sera collector. Merci beaucoup, Farah. Et tu peux reprendre la route tranquillement. L'évaluation, 10 secondes chacun, messieurs, rapidement.
L'évaluation?
Le meilleur joueur, le taulier.
Je vais dire, moi.
Ouais. Le gardien américain.
Ok.
Il a fait un gros match. C'était Stephen.
L'entrée de Fekir.
Ok, ouais. L'entrée de Fekir.
Oui.
C'est la seule NTSL qui m'a un petit peu excité pendant quelques temps.
En parlant de Fekir, je sors du match 2 secondes, je trouve bizarre ce qui est en train de se passer avec Liverpool.
Lyon qui a décidé de mettre un terme aux négociations.
Mais la marche arrière, elle a lieu après la visite médicale. Est-ce que la visite médicale a trouvé quelque chose, un problème ou un cas de récidive éventuel? Je le souhaite évidemment pas pour Fekir, mais en tout cas c'est...
Soit c'est ça, soit les deux clubs n'ont
au final pas réussi à se mettre d'accord.
Mais une fois que tu vas à la visite médicale, je sais, c'est que tu t'es mis d'accord.
Et selon nos informations, bah, on était proche d'un accord.
Bah, l'accord, il y était, d'accord. À partir du moment où tu vas à la visite et que c'est après la visite qu'il y a un problème, c'est, il y a un truc qui va
moi,
pas.
Moi, c'est bizarre, mais.
Elle est bizarre, là.
J'aimerais que ça se fasse pas et j'aimerais que Fekir fasse encore une année de Champions League. Qui plus est, pourquoi? Parce qu'il aurait fait deux années d'affilée, Daniel. Ouais. Il l'a pas fait deux années d'affilée,
Fekir. Il l'a fait avec Liverpool, hein.
Non, mais depuis qu'il joue. Il n'a pas fait deux années d'affilée, mine de rien.
Bon, en tout cas, on se quitte sur ce mot. On a un peu dévié de la trajectoire, mais c'était aussi important de parler de Nabil Fekir et de ce transfert.
Mais par contre, la Farah n'a pas été mal. Elle
comment
pas été, sur un petit peu les discussions qu'elle a eues, la Farah n'a pas été mal.
Oui, non, il donne des bons points aux auditeurs, Ali.
Oui, c'est ça. Ouais, on va te donner son numéro, si tu veux, Ali. Merci, Ali. Merci, Daniel.
C'est les amis, à demain.
On se retrouve demain à partir de 20h
pour
le Super Football Show et 22h, l'after. Évidemment, comme d'habitude, passez une très très belle soirée.
Hein,
vous embrasse.
Hugo, bientôt, Hugo sera là. Je vous le promets.
Avec le pass.
Il sera là.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.